Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième semaine pour ce nouveau rendez-vous à l'antenne de France Culture. Un rendez-vous quotidien dont le principe est simple. Un grand entretien culturel nous mène de 21h à 22h et fait entendre ce qui crée par les temps qui courent. L'émission est conçue avec Jeanne Aléos, Corinne Amard, Romain Debecq de Lièvre et elle est réalisée par Lise-Marie Barry. Aux manettes ce soir, Manon Moussin.
Par les temps qui courent, Marie Richaud.
À l'époque, il fait froid. Le XXe siècle est une histoire ancienne dont on peut citer le nom des papes, les auteurs et les vieilles techniques. Adossée à un monticule de terre, une femme écrit sur un cahier. Elle écrit comme on parle, trop vite, lorsqu'il semble que le temps nous est compté. Ils sont plusieurs à avoir trouvé refuge dans une forêt. On a fait quelque chose à leur corps, on a fait quelque chose à leur monde, il y a eu des catastrophes. La femme s'applique à respirer lentement et le dessin d'une société d'avant apparaît dans son souffle. Elle y était psychologue, les patients souffraient de rythmes effrénés et dénués de sens, on leur proposait d'acheter des chaussures parce qu'ils venaient d'acheter des chaussures. Bref, il fallait une audace dingue pour sauter en dehors du train fou, radicalement déconnecté et disparaître dans les forêts. Notre vie dans les forêts, c'est le titre de votre nouveau roman. Marie Dariosek, bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
C'est une femme qui écrit et qui dit écrire dans l'urgence. Il faut que je raconte, dit-elle, et elle perd parfois son souffle tellement elle veut écrire et parler vite. Est-ce que c'est un texte que vous avez écrit de la même façon ?
Oui. Je l'ai écrit d'un seul jet, d'un seul trait, d'un souffle, très rapidement. Alors, contrairement à elle, peut-être j'étais dans une sorte d'état de grâce. Enfin, ça m'est tombé dessus, ce livre. Il fallait qu'il s'écrive maintenant, tout de suite, mais moi, j'étais extrêmement joyeuse en l'écrivant. J'étais euphorique. Ça venait. Il y avait une évidence. Ça n'arrive pas très souvent. Il y a des livres pour lesquels j'ai beaucoup, beaucoup plus bataillé. Et j'étais complètement avec elle dans cette urgence de dire, de raconter vite. Voilà.
C'est une urgence à dire et raconter vite qui tient, elle, on y reviendra, à sa condition. Apparemment, ça ne va pas très, très bien. Il est même possible qu'elle disparaisse ou qu'elle meure. Vous, cette urgence joyeuse, elle venait d'où ?
Elle venait vraiment de l'époque. L'époque est urgente et je ne sais pas très bien pourquoi, en fait. Je ne sais pas très bien pourquoi on nous promet à ce point une catastrophe imminente. Je ne sais pas si je dois y croire ou pas moi-même. Et au rebours, comme vous savez, tous les magazines, tous les livres de conseils, etc., sont pleins de tous ces efforts qu'on devrait faire pour se détendre, pour méditer, pour manger bien, pour respirer et pour rester entier peut-être, alors qu'on a l'impression que tout part en morceaux autour de nous. Enfin, c'est très paradoxal, je trouve. Et puis c'était tout simplement la campagne électorale quand je l'ai écrit. Je l'ai écrit en gros entre janvier et avril, quoi. Et comme vous, j'imagine, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Il fallait que ça s'arrête, cette affaire-là, et que le pire n'advienne pas. Et donc j'ai écrit ce livre, qui apparemment n'a rien à voir avec le débat Macron-Le Pen. Hein. Mais pourtant, ça a à voir. Je sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre du... Oui, de... Partir en morceaux, voilà. Ça parle de ça.
Concrètement, on y reviendra d'ailleurs exactement sur cette question-là. Simplement, puisque vous dites que contrairement à d'autres livres, ce livre-là vous a presque demandé moins de peine ou moins de travail. Qu'est-ce que ça change d'écrire un livre de cette manière-là ?
Eh bien, je me pose la question. Je ne sais pas si les livres que j'ai écrits comme ça sont mieux que les autres. Typiquement, Truisme, je l'ai écrit comme ça il y a 21 ans. Je l'ai écrit d'un seul jet, en quelques semaines. Et celui-là, c'est la même veine. Voilà, ça parle, ça part et ça parle, mais de la même source, voilà, qui est quelque part là dans mon inconscient. D'autres livres, par exemple, Il faut beaucoup aimer les hommes, un de mes romans précédents, j'ai mis beaucoup plus de temps. Il a fallu que je voyage spécifiquement pour aller chercher des renseignements spécifiques, etc. Celui-là, pas du tout. C'est entièrement de l'imagination et c'est entièrement de l'information. C'est-à-dire, c'est un livre qui est nourri de tout ce que je reçois toute la journée, comme, je ne sais pas, infos, tweets, images, bribes de conversation. Enfin, voilà. C'est un livre qui est fait de ces morceaux-là, justement. Alors que d'autres de mes romans sont plus lents à écrire. Est-ce qu'ils sont mieux ou pas? J'en sais rien.
En tout cas, ça touche à la langue. Si on prend ces deux romans-là, Il faut beaucoup aimer les hommes et puis Notre vie dans les forêts, on est sur des registres de langue, des usages de la langue qui sont extrêmement différents. Moi, j'ai souvenir quand même dans Il faut beaucoup aimer les hommes de quelque chose de plus ample, qui se développait davantage, qui allait du côté de la narration de manière beaucoup plus assumée, tandis que celui-là scande davantage, qu'il essaye de s'étendre.
Alors, il y a une différence toute simple, c'est que celui-ci est un monologue. Donc il pourrait être dit en scène d'ailleurs, d'un seul jet. Il faut beaucoup aimer les hommes, c'est à la troisième personne, il y a plus un côté saga, roman d'aventure, enfin je me suis beaucoup amusée aussi. Mais mine de rien, ça se passe au même endroit, ce sont des livres de forêt, tous les deux. Et Truisme aussi, c'est marrant, c'est mon éditeur, Paul Tchaikovsky-Laurence, Paul, qui m'a fait remarquer que Notre vie dans les forêts commence où s'arrête Truisme, 21 ans après. C'est-à-dire à la fin de Truisme, elle est réfugiée dans une forêt.
C'est le mieux qu'elle a trouvé. Truisme, pour ceux qui ne l'ont pas lu,
c'est vrai
que
c'était il y a longtemps. C'est l'histoire d'une femme qui se transforme en truie. Son corps, à elle aussi, il n'est pas en morceaux, là. Il est en vrac, plutôt. Il est en transformation, en métamorphose. Mais c'est aussi à cause du monde. C'est aussi à cause de quelque chose qu'elle reçoit du monde, qui l'a fait muter, en fait. Et Notre vie dans les forêts, c'est aussi une femme à qui il arrive quelque chose, d'abord physiquement. Son corps la lâche, en fait. Et pourquoi ? Enfin, c'est aussi le monde qui lui fait ça. Et ce sont deux femmes qui parlent dans l'urgence. Elles sont assez différentes, mais il y a ce... Elles sont réfugiées dans des forêts, voilà.
Tôt le matin, en été, on est passé du trottoir au sentier et voilà le bois. La rumeur de la ville s'éloigne. On est dans une prairie très loin. C'est la campagne, la forêt, l'enfance qui revient. On y croit, on y est. C'est une illusion vraie, le monde sauvage à portée de main.
Lieu sûr, c'était déjà une forêt. Pas étonnant qu'on s'entendait bien avec le cliqueur. Je pense que ça nous définissait, comme animaux humains, la forêt, les arbres. La plupart des patients imaginent un lieu intérieur, une chambre dans une maison, une cuisine, leur chambre d'enfant, ou au contraire un grand hall plein de lumière. Pour les lieux extérieurs, ça va chercher dans les prairies fleuries, les lacs, ou carrément les grottes. J'en avais une dont le lieu sûr était une grotte sous la mer. Faut pas être claustrophobe. Mais la forêt est traditionnellement un lieu plutôt inquiétant, je crois. Si on pense aux contes genre Petit Poucet. Et au mythe du loup. Le loup est parmi nous aujourd'hui. Il occupe la ville, la zone, et presque tous les lieux sûrs. Je parle métaphoriquement, si vous me suivez. Les vrais loups, je ne sais pas où il y en a encore. Bref, mon lieu sûr. Je voyais une forêt. Je ne vais pas vous raconter ma fichue enfance. Pitié. Épargnons-nous ça. Mais je voyais une forêt que j'ai connue enfant. Elle s'étendait au bas du jardin de mes grands-parents, dans un monde disparu.
Marie Dariussecq, vous le disiez, en citant trois titres de vos romans, il y a quelque chose de très fort qui vous lie à la forêt. Romain de Bagdelier vient lire un extrait de votre livre « Notre vie dans les forêts ». Alors là, la forêt va jusqu'au titre. Et on entend cette femme qui parle, on l'a dit tout à l'heure, et qui écrit parce qu'elle est en train de partir en morceaux. Elle dit « Mon lieu sûr, c'était la forêt ». Qu'est-ce qu'il y a de sûr, ce lieu-là ?
Alors,
pour elle, on va dire.
La forêt, dans le monde que j'imagine, qui est dans un futur assez proche, la forêt, c'est un lambeau de forêt qui n'intéresse pas la société de surveillance qui a écrasé cette femme. Et c'est aussi concrètement un endroit où les drones n'arrivent pas à repérer les gens. Le feuillage, la canopée, comme on dit, arrête les caméras. On peut aussi creuser des galeries. La petite société de réfugiés, de résistants qui sont dans cette forêt élaborent toutes sortes de stratégies de fuite, en fait, d'échappement. Et on devine une société coercitive, oui, de surveillance extrême, à laquelle ils ont échappé aussi en se déconnectant, jusqu'en enlevant les puces qu'ils avaient dans le corps. Enfin, comme elle dit à un moment, de nos jours, tout le monde devient chirurgien. et ils se trifouillent eux-mêmes pour se déconnecter. Enfin, on est dans un monde où le corps lui-même devient la signature technologique, numérique, de tout un système de consommation et de surveillance. Alors c'est le cauchemar qu'on nous promet parfois. Hein. Encore une fois, je suis romancière, je ne sais pas si...
Il faut y croire ou pas.
S'il faut être à ce point dans l'affolement. Par contre, c'est extrêmement romanesque. Et j'hérite aussi de toute une tradition de romans dystopiques. En ce moment, je lis Ballard, par exemple, que j'avais jamais lu. Mais ne serait-ce les films de Kubrick, enfin, tout, les caméras, les robots, évidemment. Elle est aussi dans un monde où on ne sait pas qui est robot ou pas, ce qui est un grand classique de cette littérature-là, mais qui est extraordinairement romanesque. Quand on se met à écrire sur ce territoire-là, à ne pas savoir la nature du corps que l'on a en face. En fait, dès que je pense à ça, moi, les histoires me viennent. Enfin, c'est extrêmement riche comme histoire. C'est aussi pour ça que j'ai pris un tel plaisir à l'écrire, même si le monde décrit est cauchemardesque. Mais la forêt, oui, comme lieu sûr, c'est plausible au fond. Hein, je veux dire, les combattants vietnamiens se cachaient dans les forêts et les Américains ne trouvaient rien de mieux que de napalmer les forêts pour les faire disparaître, pour trouver les combattants. Donc la forêt est-elle comme j'ai pu voir des forêts encore vierges, comme on dit en Afrique, on dit primaires aujourd'hui. On a effectivement un étrange sentiment de sécurité. C'est très paradoxal, alors que ce sont des lieux vraiment sauvages. Je m'y sentais assez bien, en fait. Sauf une expérience qui un jour m'a sidérée, c'est que j'étais donc accompagnée d'un guide pygmée et puis d'un gardien, parce que c'est aussi des lieux concrètement assez dangereux. Et puis tout à coup, on marchait comme ça dans la forêt au sud du Cameroun et on s'est tous arrêtés, nos poches vibraient, on a tous bipé, on s'est tous penchés, le guide pygmée compris, sur nos téléphones portables, parce qu'on avait tout à coup le réseau au milieu de nulle part. Et on s'est tous arrêtés pour regarder nos mails, nos textos, etc. Et je crois aussi que ce roman, Notre vie dans les forêts, est né de ce genre de brèche. Enfin, finalement, on n'est nulle part à l'abri. Mais c'est bien aussi, je veux dire. C'est extraordinaire d'avoir le réseau dans une forêt primaire. Le monde est plein de plis et de replis, voilà. Et de passages. Encore une fois, c'est très romanesque.
Vous disiez tout à l'heure combien ce texte-là, vous l'avez écrit avec la manière dont tout vous arrive par morceaux du monde, les tweets, les infos, les images. Aujourd'hui, si on pense à des images de forêts, alors peut-être on peut convoquer des forêts primaires du sud du Cameroun. On peut aussi convoquer des bois ou des jungles à Calais ou dans d'autres endroits de la France où dans les forêts se nichent des personnes qui ne savent plus où aller parce que précisément on ne veut d'eux nulle part. Est-ce que c'est une image qui a aussi fonctionné dans votre imaginaire pour écrire ce livre-là ?
Ah oui, vous avez une intuition très juste parce que ce livre est né aussi de, non pas de l'échec de notre roman, mais disons de la pause, de la mise sur pause d'un roman que j'essaye d'écrire sur les migrants et j'ai énormément de mal pour des tas de raisons, y compris des raisons morales et politiques. Mais je n'abandonne pas. Mais il se trouve que j'ai commencé Notre vie dans les forêts à un moment où je venais de décrire une zone en bordure d'autoroute avec ses campements. Donc c'est très curieux le devenir des aires d'autoroute de toutes ces sociétés, la Campanile, etc., qui nous font à manger rapidement. Et on gare sa voiture, on fait l'essence, on va faire pipi, on bouffe. Et juste là, à 10 mètres, il y a un campement qui commence avec des bâches bleues, etc. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on est. Voilà, c'est des contiguïtés extraordinaires. Et des gens qui avant ne se rencontraient pas, qui quand même sur ces non-lieux-là se rencontrent. Ou pas, enfin, bien ou mal. Mais enfin voilà, il y a de la contiguïté.
Se côtoient.
Se côtoient, se croisent aussi. Et donc j'avais décrit effectivement dans ce roman-là, qui pour l'instant est en bataille, disons, cet usage-là des bois. C'est plutôt des bois que des forêts.
Ça veut dire que cette micro-société qui s'est construite ou reconstruite à l'abri de ce quelque chose qui reste très mystérieux, hein, ce quelque chose qui leur est arrivé à tous et à cette femme en particulier, se construit aussi dans une idée d'être à part. Ce n'est pas que être à l'abri, c'est aussi être poussé dans la forêt, repoussé dans la forêt.
Oui, c'est un monde parallèle en fait. C'est un monde parallèle à cette société totalitaire, disons, à laquelle ils essaient d'échapper. C'est aussi des bouts, c'est-à-dire c'est le bout des rails, il y a des espèces de cliniques bizarres, et puis après il n'y a plus rien, il y a des zones. Je pensais aussi énormément au film de Tarkovsky, un de mes films préférés, Stalker. C'est un film incroyablement prophétique, c'est avant Tchernobyl, mais ça décrit une zone comme ça, contaminée, on ne sait pas par quoi, où la forêt a repris ses droits, y compris les animaux de la forêt, les loups, les hiboux. Alors là, le monde est tellement abîmé, tel que je le décris, qu'il n'y a plus vraiment que des pigeons, des rats et des chiens errants. C'est un peu la faune qui reste. Les renards, tout ça, il n'y en a plus. Et puis il y a eux, il y a ces humains qui sont quand même en train de se transformer en taupes, quoi, ou en rongeurs. Enfin, il y a deux équipes. Il y a ceux qui veulent rester à l'air libre et ceux qui veulent s'enterrer. Pour moi, c'est très Beckettien aussi à la fin. Tous ces personnages qui sont en bordure d'être des déchets eux-mêmes, hein, et qui sont. Elle est dans un bidon à la fin, et c'est là qu'elle est dans son lieu sûr. Ça, c'est vraiment resserré autour d'elle. C'est ironique aussi parce que le lieu sûr, c'est une méthode assez efficace, à vrai dire, dans pas mal de thérapies, pour s'imaginer à l'abri mentalement. Hein. C'est une façon de méditer où on imagine, on visualise un endroit où on se sent bien. Alors ça dépend de chacun, mais parfois c'est des endroits assez clichés. Ça peut être une île, une plage ou sa chambre d'enfant, si éventuellement on a eu une enfance heureuse. Ça arrive. Et ça peut être assez efficace, à vrai dire, le lieu sûr. Sauf que c'est complètement imaginaire. Voilà. C'est quoi un lieu sûr à Alep sous les bombes? Bon, comment on fait cet exercice-là? Je sais pas. Mais donc, je m'amuse aussi avec ces méthodes thérapeutiques, de thérapie qui fonctionnent, mais pas toujours, quoi. Et elles, son lieu sûr, c'est une forêt.
On entendait, parce que nous, on a été chercher une autre forêt, en tout cas une autre parole sur les forêts, ce documentaire de Claire Simon, Le bois dont nos rêves sont faits, l'idée qu'une enfance revient, que l'enfance revient avec la forêt d'un monde disparu. Vous diriez que c'est aussi ça, pour elle, le fait de se retrouver dans la forêt, cette femme. Il y a plein de choses qui reviennent en bribe, dont son enfance.
Oui, alors elle a une enfance très étrange, hein, puisque c'est un des nœuds du livre. Il lui est arrivé quelque chose dans l'enfance, et enfin, quelqu'un est né à ses côtés, qu'elle visite. C'est quelqu'un qui est endormi, qui porte le même prénom qu'elle, même si après elle a pris un prénom de résistante. Bon, elle a changé d'identité, mais on lui a collé une identité à laquelle elle essaie d'échapper. Et donc elle va rendre visite à cette personne, à cette femme endormie. Donc, enfin, le livre commence comme ça aussi. J'ai voulu vraiment volontairement faire un livre à mystère, quoi, un livre à suspense. J'avais très envie de raconter une histoire qui aille vite, voilà. Et tout est lié, enfin voilà, c'est. Alors je dévoile pas la clé du mystère là, mais la forêt, c'est aussi le lieu évidemment des contes. C'est Hans et Gretel, c'est le petit poussé, c'est le petit chaperon rouge, c'est le loup, c'est l'endroit où on se fait dévorer. C'est aussi, par exemple, ce film génial, Blair Witch, le projet Blair Witch. C'est un film du début des années 2000 où trois jeunes gens étudiants s'en vont dans la forêt pour filmer des phénomènes surnaturels auxquels ils ne croient pas et qui, évidemment, vont les rattraper. C'est un film terrifiant, je trouve. Très réussi.
Ces premières images un peu thermiques.
Voilà.
Là,
c'est un des premiers films en caméra, disons, subjective de cette façon-là, oui, avec des images thermiques, comme vous dites. Et ce sont des films très inspirants pour moi. C'est très matriciel, disons, ces images, ces jeunes gens perdus, cette peur. Et des très gros plans aussi sur, je me rappelle dans ce film-là, sur son œil. Allez savoir, peut-être, il lui manque un œil à ma personnage, là. Donc, peut-être que tout ça est venu un peu percuter mon inconscient. Elle voit pas très bien, elle s'évertue à voir. Heureusement, elle rencontre quelqu'un qui l'aide à voir aussi et à comprendre ce qui se passe. Why do you welcome them home? If every angel's terrible, then why do you welcome them home? If every angel's terrible, then why do you welcome them home? You'll provide the bird bath if I provide the skin now. Bathing in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Hit those little brighter suns.
They got angelic tendencies, like some boys tend to act like queens. If every angel's terrible, then why do you watch her sleep? Love to hear her sing. Purple eyes like rings, and the flowers have no scent, and the child's been miscarried. Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You say, you'll provide the bird bath, yeah. I provide the skin, then bathe on in the moonlight. I'm to tremble like a kipper. Rimbaud never paid him no mind. Jimmy Morrison had his elevators. His elevators. He had his elevator engine.
Les anges terribles chantés par les deux sœurs Coco Rosie, dont les voix se ressemblent, s'assemblent, se rejoignent, se disjoignent. Marie Dariussec, pour évoquer avec vous cette idée du double. Alors on parle depuis tout à l'heure de Viviane qui s'est choisie ce prénom de résistante. Avant cela, elle s'appelait Marie, comme son double, née Marie elle aussi, et endormie
comme
quelque
vous.
Part, comme moi et comme vous aussi, pareil. Qu'est-ce que ça vous permet de dire, cette idée du double, et précisément du double endormi ?
Je me disais récemment que, il se trouve que je suis insomniaque. Et je tiens d'ailleurs une chronique dans l'Obs sur l'insomnie. Et depuis plusieurs années maintenant, je lis beaucoup les insomniaques. Par exemple, Germaine de Staël ou Huysmans. Enfin, je redécouvre un peu des livres que j'ai éventuellement pu lire déjà, mais en me disant, ah tiens, il ou elle était insomniaque. Alors, ça donnait quoi dans sa vie, dans son écriture? Et l'idée d'avoir un double endormi, je crois que ça me fascine complètement.
Ça
parce
vous fait
que
du bien.
Ça doit être très reposant de se voir dormir dans l'autre, finalement. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment écrit ça pour ça, mais au départ, hein, c'est curieux, c'est une nouvelle que j'avais écrite en 96, au moment où je publiais mon premier roman de truisme, que j'avais écrite pour Philippe Solers, pour L'Infini, pour sa revue. Et ça devait tenir en 3 pages, et c'était... Une jeune femme qui rendait visite à une jeune femme qui lui ressemblait beaucoup et qui était endormie. Et on comprenait petit à petit, mais là je peux le dire, que c'était son clone en fait. Et que le destin de ce clone était extrêmement problématique, mais forcément, je veux dire, le destin des clones est extrêmement problématique. Et donc ça fait 21 ans que j'ai écrit cette nouvelle et je crois qu'elle m'a toujours plu finalement, cette petite nouvelle, et j'ai eu envie de lui donner... Pas de la continuer, parce que le roman est beaucoup plus vaste que ça, enfin j'espère, mais de lui donner un autre espace, voilà, de la situer dans un monde, dans un espace, d'inventer le monde tout autour. C'est aussi, me semble-t-il, ce roman, Notre vie dans les forêts, un roman qui est écrit pas du tout dans le même monde qu'en 1996, et entre autres choses, alors il y a eu l'attentat contre les tours à New York, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais il y a eu aussi l'avènement des séries télé. Et je pense que mon écriture en a pris un, je sais pas, un tour, peut-être qu'il y a quelque chose d'extrêmement dense à chaque page qui pourrait ouvrir à un nouvel épisode, en quelque sorte. Il me semble que j'écrivais pas comme ça avant. Et donc cette nouvelle finalement c'est un épisode, et alors je lui en ai donné plein d'autres autour, quelque chose comme ça. Et en tout cas oui, il y a un problème de clone. Je me suis beaucoup intéressée d'abord à Dolly, forcément, la brebis, on en a tous entendu parler. J'ai découvert avec stupéfaction qu'en fait les clones ne sont pas du tout stériles, contrairement à ce que je pensais. Un clone, une fois qu'il est sur pattes, il a une vie d'animal. Alors il y a peut-être des clones humains hein, aujourd'hui, je sais pas, mais pour l'instant on en est aux animaux. Et Dolly, elle a eu, si je me souviens bien, 6 agneaux avec un avec un bélier du Pays de Galles qui lui a donné 6 beaux agneaux. Et ça me fascine complètement la vie de cette brebis qui était quand même tellement exceptionnelle qu'elle était gardée en sécurité tout le temps parce qu'on allait la voler, c'était le premier clone mammifère de l'histoire, et qui a eu finalement une vie assez normale, de façon étonnante. Et elle est morte relativement jeune pour une brebis, paraît-il, mais d'un cancer du poumon, bizarrement. C'est une longue histoire.
Non, mais il y a, au-delà de cette brebis qui nous intéresse tous.
Mais oui, c'est
tous,
passionnant.
Mais il y a quand même dans cette idée du double et du clone, l'idée que quelque chose de nous vit sans nous, en tout cas dans votre roman Notre vie des forêts. Dans les forêts, il y a vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand on partage beaucoup de choses avec un autre être? Alors, peut-être pas complètement la génétique. Alors, c'est au-delà du frère et de la sœur. C'est au-delà d'être fils ou fille de quelqu'un. Mmh. Mais vous questionnez, il me semble, cette chose-là. Partager profondément quelque chose de la même souche.
Oui. Alors, la même souche génétique, physique, disons. Sauf que comme l'autre mari est resté endormi constamment et qu'une part de la mission de ces résistants est de réveiller leur clone, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a toute une génération de gens qui ont un clone. Donc ils vont faire irruption dans les cliniques qui maintiennent ces clones endormis et ils les libèrent. Sauf que c'est très compliqué. Parce que comme ce sont des gens qui sont restés endormis tout le temps, ils n'arrivent même pas à marcher. Il faut les transporter sur des brancards.
Les verticaliser.
Il faut les verticaliser, ce qui est un terme de psychologie pour les bébés en fait. Quand on tient un bébé tout juste né, on le tient debout comme ça dans les mains. Il y a un geste à faire. Il ouvre les yeux, un peu comme une poupée. Et dès qu'on le remet à plat, c'est pas qu'il se rendort, c'est qu'il ferme les yeux. Bon, et donc ils font ça avec leurs clones et ils leur apprennent à marcher, à parler. Et ils sont assez déçus en fait, parce que ces êtres-là ont la tête complètement vide, ne pensent qu'à s'amuser et pas du tout à faire de la résistance politique. Mais vraiment pas du tout. Alors je me suis aussi amusée avec toute cette équipe de bras cassés, c'est le cas de le dire, avec tous ces clones qui veulent rien faire, qui veulent pas du tout participer aux tâches collectives, qui n'ont pas vraiment le sens du collectif en tête. Et qui, surtout, enfin, pourquoi est-ce qu'ils étaient fabriqués exactement? Donc ça, c'est vraiment l'histoire dans le livre, quoi. Il y a une espèce de découverte atroce à la fin, mais complètement logique, à mon avis. Le problème, comme vous savez, c'est que c'est très facile à faire, un clone humain. Et donc, si c'est si facile, ça doit déjà exister, en fait. Quand c'est possible, en science, ça arrive, ça advient. Donc je sais pas trop, c'est un peu inquiétant quand même.
Finalement, le vivant, c'est un grand Lego. Il faut trouver les briques de base. Et quand on aura trouvé les briques de base, on pourra effectivement reconfigurer cet humain et dans un sens.
Mais toute la question se situe dans le qu'est-ce qu'on appelle améliorer. Et là, on pourrait tous en discuter. C'est-à-dire qu'il y a quand même une convergence et il y a une idée très nette de ce qu'est un homme qui est amélioré. On ne voit pas de transhumanisme qui propose un homme plus paresseux. Moi, ça m'intéresserait. On ne voit pas un transhumanisme qui propose un homme moins adapté, au fond, à ce qui sont les valeurs de nos sociétés industrialisées et performantes. Et donc, là, on voit une espèce de proposition univoque. Voilà. Et quand ça devient univoque, c'est un petit peu. Il faut un petit peu.
Moi, je rêve d'un homme plus rêveur, par exemple.
Voilà. Hein, voilà.
Moi, je rêve d'un homme plus rêveur, dit l'un des intervenants dans cette émission consacrée au transhumanisme, Marie Dariussec. Alors, il y a aussi cette idée que si la proposition de l'homme bricolé ou l'homme fait de l'ego vivant ne va que dans un sens univoque, peut-être l'humanité perd quelque chose de complexe. Vous, dans les clones, dans les doubles, il y a l'idée qu'on puisse aller chercher des pièces manquantes. Marie, le personnage, Marie-Vivienne, le personnage, si son œil fonctionne pas bien, peut-être elle peut aller chercher un œil de réserve dans la Marie dormante, comme si on pouvait réunir deux moitiés et être enfin complet. Il me semble que notre vie dans les forêts, c'est quelque chose qui dit nous sommes incomplets, nous sommes incomplets, qu'est-ce qu'on peut faire de ça?
Heureusement qu'on est incomplet, effectivement, heureusement qu'il y a la place de pouvoir s'inventer, de pouvoir devenir autre chose, mais cette idée de rafistoler quelqu'un avec un clone, enfin, moi, la grande écrivaine de ça, c'est Mary Shelley, c'est Frankenstein. Enfin, elle a tout compris. À 19 ans, ce livre est un ovni complet. Enfin, c'est incroyable. Je le relis souvent, ce livre. Et alors, c'est pas exactement un clone, Frankenstein. Enfin, la créature de Frankenstein, mais elle est faite de morceaux de cadavres qui ont pris vie. Et récupérer des morceaux ailleurs, fonctionner.
Il y a beaucoup de corps éclatés dans ce roman. Beaucoup de corps qui sont morcelés, beaucoup de corps qui tiennent plus ensemble, comme s'il y avait vraiment à la fois une recherche de l'unité, en même temps l'idée que l'unité mènerait pas forcément à un endroit meilleur.
Non, oui, c'est très métaphysique comme remarque. Je pensais tout simplement aux grossesses, au fait de faire un bébé, que c'est déjà complètement dingue comme expérience de donner naissance à un être vivant qui sort de soi. Enfin, ce qui me frappait dans une des phrases qu'on entendait là, c'est que c'était seulement des hommes qui parlaient et ils disaient l'homme. Je rêve d'un homme plus rêveur. Non, ils rêvent d'un humain plus rêveur, pas d'un homme. C'est ça. Je crois aussi qu'on a vraiment besoin d'inclure absolument toute l'humanité, toutes les hommes, les femmes et toutes sortes d'humanités pour arriver à sortir de l'angoisse dans laquelle on est tous là. Enfin, là aussi, je dis des choses assez générales et métaphysiques, mais il me semble que justement, dans ce monde qui est en train de partir en morceaux, avec des gens comme Trump, qui sont absolument des grands scissionnistes, sont vraiment des gens qui sont en train de tout faire éclater en morceaux, socialement, économiquement, si ça a un sens, écologiquement. Enfin, il faudrait au contraire arriver à réunir une humanité, quoi. Voilà. Mais tout le monde. Et alors, je ne sais pas comment on fait ça. Mais en tout cas, en arrêtant de penser qu'il faudrait, qu'il faudrait que l'homme soit meilleur ou soit... Je sais pas. aller se promener dans les forêts, aller errer un peu, aller se tromper, aller...
Peut-être en regardant à 360 degrés, il y a aussi cette question du regard qui, lorsqu'on n'a qu'un seul œil, comme si on ne regardait qu'un petit bout du monde, ou que les hommes et pas les femmes, ou qu'un endroit un autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si on était réunifiés, alors on pourrait avoir une vue plus large.
Il y a Jean-Christophe Bailly qui a dit une chose fondamentale sur les animaux. Il a dit « les animaux regardent aussi le monde ». Voilà. Ils posent leurs yeux sur le monde. On ne peut pas faire comme si ces yeux-là n'existaient pas. Un arbre, c'est fascinant, mais on peut quand même assez peu interagir avec un arbre. Il ne faut pas exagérer. Même s'il y a des très bons livres en ce moment sur les arbres. Mais les animaux ont des yeux. Ils ont un univers. Ils voient le monde comme nous. Enfin, justement, pas comme nous, mais ils ont des yeux aussi. Et il faudrait aussi pas les inclure, c'est pas le bon mot, mais les autoriser à habiter cette planète. Voilà, ils sont là aussi. On peut pas faire comme s'ils étaient pas là. Ou alors, comme disait Derrida, on leur mène une guerre totale. Ce qui est actuellement en train de se passer, on mène une guerre totale aux animaux en ce moment. Donc, je sais pas, moi j'écris des romans. Oui. Faut essayer d'inventer autre chose, oui.
Et de réveiller quelque chose. Avec Yannick Enel, vendredi dernier, on parlait de cette idée-là, de réveiller quelque chose. Ici aussi, il s'agit de réveiller des moitiés. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte d'angoisse duquel il faudrait se réveiller pour sortir, justement ?
L'éveil, oui. Je me demande si d'ailleurs au début de notre vie dans les forêts, elle se réveille pas, s'il n'y a pas ce mouvement d'éveil. Elle ouvre un œil, en tout cas, ou l'œil qui lui reste. Je sais plus quelle est la première phrase, mais je crois que c'est un éveil.
J'ai ouvert l'œil et boum, tout m'est apparu.
Voilà. J'ai ouvert l'œil et boum, tout m'est apparu. Oui, l'éveil. Pour une insomniaque, c'est un peu pénible, l'éveil. Mais il y a une façon de se réveiller et d'être éveillé qui n'arrive pas tous les jours, en fait. On se réveille, mais on ne s'éveille pas, en fait. On continue la routine, le bazar, les obligations qu'on s'invente soi-même ou qui sont effectivement imposées à nous. Enfin, il y aurait un autre éveil, sûrement. Ça arrive parfois. Dans les années 70, on disait le mot épiphanie. Mais il y a des brèches, comme ça, par lesquelles on peut passer, parfois, pour une certaine forme d'éveil qui ne soit pas imposée par le religieux, par la morale, par le politique, voilà. Mais qui pourrait quand même avoir trait au collectif. Bon, un éveil ensemble, ouf, je ne sais pas.
Hal, 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 hal. Hal, 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 hal
La fois que j'ai allongé un patient, après l'avoir vu un moment en face à face, j'ai été extrêmement dérouté. C'est-à-dire que je me suis senti perdu. Pendant un moment, je me suis senti perdu. Ne plus l'avoir sur le fauteuil face à moi a fait que je me trouvais aux prises sans cette présence du regard. Je me trouvais aux prises avec tout un tas de sensations, d'émotions qu'il m'a fallu du temps pour apprivoiser. Alors, là encore, que j'attendais depuis très longtemps ce moment-là. Je l'ai attendu comme analysant, ensuite pendant mes études et comme thérapeute. C'est-à-dire que moi, je pouvais avoir le sentiment peut-être de lâcher le patient, mais peut-être plus encore, j'ai pu avoir le sentiment que le patient ou la patiente me lâchait. Il n'y avait plus une évidence comme ça de la circulation des mots et des regards. Et aussi, peut-être, l'advenue d'une plus grande liberté. Celle de mon regard, n'étant plus sous le regard du patient, donc du coup à pouvoir peut-être avoir plus mon regard qui se promène, la possibilité de regarder par la fenêtre, la possibilité de regarder mes chaussures, plus qu'en face à face, et un afflux plus important de pensées, d'images, dont je me suis rendu compte progressivement que c'était aussi toute la matière de l'analyse qui était présente dans cet afflux.
Marie Dariussec, c'est un des intervenants dans une grande série documentaire que Virginie Bloch-Lenné consacrait il y a quelques temps, en 2015, à la psychanalyse. Et ici, le récit du premier patient, en tout cas de la première fois que le patient s'allonge. Dans votre roman « Notre vie dans les forêts », Viviane Marie se rappelle de la vie d'avant dans cette société dont des bribes lui reviennent, et de ce métier de psychologue ou de psychanalyste. Je ne crois pas que le mot psychanalyste soit écrit. Et elle se rappelle d'un premier patient, un patient qu'elle appelle zéro. Pourquoi est-ce que c'est précisément cette figure qui lui revient à ce moment-là?
Le patient zéro, parce que c'est le premier patient qui vous fait psychologue ou psychanalyste. Enfin, c'est le premier qui vous apprend à l'être. Enfin, vous avez beau avoir suivi une formation avant et bien sûr avoir fait une analyse ou à tout le moins une thérapie avant, ça n'a rien à voir. Enfin, ça a tout à voir, mais ça n'a rien à voir. C'est très fort, c'est très émouvant sûrement. Et elle est, c'est ce cliqueur là. C'est un drôle de métier. C'est un mot que j'ai attrapé pour la première fois sur France Culture, d'ailleurs. J'ignorais tout des cliqueurs avant d'entendre une chronique au matin de France Culture. Et il lui apprend tout, c'est-à-dire qu'il lui apprend à se taire. Et ça, c'est très important. C'est une psychologue qui jacasse un peu. Elle donne des conseils. Ça, c'est très, 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 très mal. Parce qu'elle est aussi dans un monde où les gens doivent suivre des conseils, voilà, et doivent faire ce qu'on leur dit. Et donc, quand quelqu'un a mal, elle lui dit d'avoir moins mal, en gros. C'est ça, hein, les conseils.
Ou soyez ce que vous êtes, ou
oui.
Faites en sorte d'être vous-même. Ou...
Voilà, venez comme vous êtes. Qui est un slogan de McDo, enfin, c'est un truc de dingue. Bon, bref, et donc, il lui dit de se taire. Voilà. C'est exactement ce qu'avait dit la première patiente à Freud. Elle lui avait dit, taisez-vous. Pour avoir la place de parler, ou elle-même de se taire, d'ailleurs. Et au début, ce cliqueur, ce patient zéro, il se tait beaucoup. C'est très déroutant, ça, pour les psys, hein, les patients qui se taisent avec obstination, avec désir aussi. Il y a un désir de silence, que ça s'arrête. Et parfois, les patients, ils viennent pour se taire pendant trois quarts d'heure. Hein. Ben voilà, c'est ça leur analyse aussi. Alors, il ne faut pas que ça, bien sûr, mais il faut aussi accepter ce silence. Et au bout d'un moment, il se met à parler, ce patient zéro, et c'est pas pour rien dire, pour le coup, hein. Et j'avais absolument besoin de lui pour le roman aussi, pour qu'elle puisse sortir de cette entrave-là, de soigner les gens d'une certaine façon, sans entendre ce qu'eux ont à dire sur le soin dont ils ont besoin.
C'est pas un hasard si, dans ce moment de résistance, dans cette sous-contre-société qui s'organise dans la forêt, ce soit cette pratique-là ou le questionnement du silence ou le questionnement de la parole qui surgissent. Qu'est-ce que ça dit de la société qu'ils ont fui ?
C'est une société qui jacasse. J'aime bien le mot jacasser. Je crois que c'est les babouins qui jacassent. C'est le cri du babouin, c'est jacasser. Et les pies jacassent aussi. Et c'est un mot qui dit ce qu'il fait, jacasser, on l'entend. Et ben là, on a un président des États-Unis qui jacasse à 3h du matin, quoi. Enfin, faites le taire, taisez-vous. Et dans la forêt, il y a, dans ce réseau de résistance, il y a évidemment la nécessité du secret, la nécessité d'échapper à l'écoute généralisée, quelle qu'elle soit aussi, parce qu'il y a des écoutes bienveillantes, bien intentionnées, mais peut-être on n'en peut plus d'être écouté aussi. Donc, faire autrement avec la transmission de la parole, avec le...
Mais se déconnecter pour eux, c'est aussi la possibilité de se taire.
Oui, bien sûr. Oui. Personnellement, je me tiens très très à distance de tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et même d'autres. Parce que je sais que sinon je tomberais dedans. Moi, ma structure psychologique, c'est l'hystérie. Donc, si je touche à ça, je vais y passer ma vie, au moins pendant un certain temps. Voilà, jusqu'à m'en dégoûter probablement. Mais donc, je n'y touche pas. C'est comme certaines drogues qui m'attirent trop. Je n'y touche pas. Et par ailleurs, j'ai la chance aussi de pouvoir m'exprimer, comme on dit dans mes romans. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Mais je sens qu'il y a un phénomène de bavardage et d'être ensemble sans vraiment être ensemble. Enfin, le problème de l'écriture, c'est qu'on est seul hein, toute la journée. On est seul. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, on est complètement bloqué, coincé. Alors, si j'avais Facebook, mais je sais pas, ça serait une forme de folie, quoi.
Le problème ou la chance de l'écriture ? C'est d'être seule.
Alors oui, c'est pas comme ça que ça se pose probablement. Il y a pas le choix, voilà. C'est comme ça. Il faut être face à un mur ou à une fenêtre, voilà. Mais seule, oui. Et là, c'est très rare que j'arrête un roman. Enfin, ça fait 4 ans que j'essaie d'écrire sur les migrants. Je sais ce que je veux faire. J'ai une histoire. J'ai un univers en tête. Les 60 premières pages sont très bonnes. Mais alors après, je m'en sors pas. Bon, et ben, il faut que j'insiste. Il faut l'écriture, c'est l'obstination. C'est ni être seul ou pas. Je sais pas. Finalement, c'est l'obstination. Et pour s'obstiner, il faut absolument ne pas se connecter, ne pas aller voir les infos, ne pas googler je ne sais qui, ne pas téléphoner, téléphoner. Maintenant, c'est désuet. Plus personne ne téléphone, mais ne pas envoyer de texto, ne pas. Il faut s'obstiner. Voilà. Et peut-être on est effectivement dans un monde où cette obstination, elle est un peu découragée, où elle est un peu parasitée, je sais pas.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole de cette Viviane qui ressemble à un flux de parole ? Alors elle était du côté de ceux qui écoutaient, de ceux qui soignaient, mais aussi un flux de parole en association libre qui pourrait être presque l'idée retournée. D'un seul coup, ce serait elle, le patient, plus le patient zéro. Le patient zéro se lève, se retourne et regarde Viviane Marie et maintenant c'est à elle de parler.
Oui, il y a un peu cet effet symétrique qu'elle a fait une analyse avec lui aussi. Il l'a aidé, mais beaucoup de mes patients m'ont aidé aussi. Enfin, ça se fait à deux, cette chose-là. Et Elle est dans l'urgence, elle va probablement mourir, hein. C'est quand même aussi un testament cette histoire, mais elle a une rapidité et elle passe d'une idée à l'autre. J'ai rythmé le texte avec des « j'en étais où ?»« qu'est-ce que je disais ?» Enfin bon, bref, il y a beaucoup de bref aussi, parce qu'il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Là, il faut qu'elle. Il y a très peu de descriptions, par exemple. Elle va pas se mettre à décrire la forêt, elle est pas là pour ça, quoi. C'est bizarre d'ailleurs, parce que non, il faut beaucoup aimer les hommes. Le personnage de Solange aussi, la forêt, elle n'avait rien à faire. Vraiment, elle était amoureuse d'un homme et la forêt était une espèce de vaste empêchement entre elle et lui. Donc il faudrait peut-être un jour que j'écrive un livre sur la forêt. Parce que pour l'instant, ce sont des livres dans la forêt, ce qui est assez différent.
Je m'égare. Reprenons. Mon chien était mort, mais un autre chien venait. Un chien errant. Il y en a. Ils forment même des meutes à la sortie des villes. Je n'en avais jamais rencontré du côté du centre, mais je pense que là-bas, ils les terminent en masse. C'était un de ces chiens jaunes, aux poils collés, qui sont le fruit d'une longue série de croisements entre chiens de toute espèce. Des mélanges très solides, inoxydables. Il attendait au pied de mon immeuble. Il était un peu bizarre pour un chien sans humain, vu qu'il avait un collier. Pas exactement un collier, mais une fine cordelette autour du cou. Il avait un tout fin papier à cigarette, roulé autour de la cordelette. Disparaissez maintenant. Il y avait écrit sur le papier. La forêt était étourdissante. De toutes petites feuilles d'un vert très clair, d'un vert tellement naturel qu'il me semblait artificiel. Le vert de quand on pense au vert. De toutes petites feuilles qui poussaient au bout d'absolument toutes les branches. On avait envie de les toucher, d'être touché par ce feuillage doux et velu et si vert. Et le fait de ne rien entendre dans l'oreille que le bruit du vent dans les arbres, et occasionnellement, oui, un oiseau, étourdissant. Je vibrais. Je respirais. Pas de sollicitation, rien. Juste l'invitation du vent, des arbres et des oiseaux, et du soleil. Et du chien que je suivais et qui avait l'élégance de faire comme si c'était lui qui me suivait.
Marie-Dariussec, Romain de Bec de Lièvre vient de lire un extrait de votre roman Notre vie dans les forêts, où il y a cette figure de chien errant. C'est une figure qui reviendra aussi à un autre moment dans ce texte. Et vous n'êtes pas la première écrivaine à publier en cette rentrée et à faire apparaître la figure d'un chien perdu, d'un chien errant, d'un chien qu'on aurait oublié quelque part. Alors, ou bien on se dit que c'est juste un détail et que c'est, voilà, un hasard, une récurrence comme ça qui arrive dans vos livres, ou bien on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui parle de l'époque, qui parle de quelque chose qui nous concerne. Ce serait quoi la figure de ce chien errant, chez vous d'abord?
Bon, chez moi, c'est un des derniers animaux possibles dans cette ville, dans cette zone. Ça s'inspire de chiens que j'ai pu voir à Sofia, par exemple, ou à Istanbul, qui sont des chiens qui survivent, on ne sait comment, qui ont tous la même forme. Ils se sont croisés les uns des autres, c'est des bâtards hyper solides.
Hyper flippant à Sofia.
Oui, on peut être poursuivi. Enfin, oui, oui. Ça peut être des chiens dangereux parce qu'ils ont faim aussi, tout bêtement. À Istanbul, ils ont fait des campagnes assez terribles pour les isoler sur une île. Enfin, c'est toute une histoire, les chiens errants dans les villes. Il y a un très beau livre de Jean Rollin sur les chiens errants, comme ça. Mais ce chien, il va la guider, en fait. Les chiens savent aussi faire ça. Il va aussi transporter un message. Et puis, c'est un chien, comme il est dit dans le livre, non usiné. C'est-à-dire, il est ni cloné, ni bricolé, ni, il n'est pas prothétique, il n'est pas greffé, il est, voilà. C'est un chien naturel, finalement.
C'est un chien animal, j'allais dire.
C'est un chien animal, exactement, oui. Mais de même que nous sommes des animaux humains, voilà, lui, c'est un animal canin, voilà. Et il va jouer un rôle décisif dans le livre, hein. De même un pigeon, voilà. C'est un peu les derniers animaux possibles dans une relative autonomie, parasitant les humains ou vivant à côté, vivant de leurs poubelles, de leurs déchets. Voilà, il y a un certain type d'animaux comme ça, pas si nombreux. C'est pas non plus les animaux en batterie comme les poulets. Ou... Vous savez que le poulet est l'oiseau le plus répandu sur la Terre aujourd'hui, hein. C'est parce qu'on les usine justement. ou bien les vaches, enfin bon. Mais et puis après, quoi, les tigres, il y a quasiment plus de tigres que dans les zoos. Et je parle du tigre de Tasmanie, d'ailleurs, qui a disparu en 1933, le tout dernier qu'on ait vu. Et il y a un zoo dans le livre. Les zoos sont des musées de la disparition. C'est des endroits où on fait persister des espèces disparues ou en voie de disparition et où on est en train de les cloner, enfin pour les faire survivre. Les pandas chinois, je sais pas trop comment ils sont trafiqués en fait. Et on espère par exemple recloner des mammouths. Bon, ça va donner quoi, se échanger un regard avec un mammouth cloné? C'est à la fois extravagant, excitant, angoissant. C'est un monde assez neuf, ça c'est vrai pour ça.
Alors ce serait quoi? Ce serait ce qu'il reste du vivant, ce chien errant, ce chien perdu qui reste animal et qui est capable de nous dire quelque chose, en l'occurrence avec son petit message « disparaissez maintenant ».
Je pense que c'est une créature non humaine avec laquelle on peut engager une relation, voilà. Et peut-être une relation de confiance, c'est-à-dire c'est pas un robot, c'est pas un clone. Comment ils seront les clones? Enfin, je sais pas. Ça existe vraiment. Hein, en Corée du Sud, il y a une usine où on peut pour 100 000 euros, je crois, faire cloner son chien mort. C'est très facile. Il faut du poil de ce chien et c'est une technique absolument au point. Ça doit être étrange quand même. C'est comme un fantôme, ces chiens. Et bien sûr, c'est pas du tout le même chien puisqu'il sera pas élevé exactement pareil. Enfin, mais il a exactement le même aspect physique, la même voix aussi, par exemple, le même aboiement. Bon, c'est un monde tout neuf.
Alors ça parle de votre figure du chien errant, mais si on se met à se dire qu'il est revenu comme ça dans plusieurs romans.
C'est vrai que dans le roman de Yannick Enel, que j'ai lu avec grand plaisir, Tiens, ferme ta couronne, il y a un chien, effectivement, un dalmatien.
Qui se perd
dans le roman.
Oui, il y en a un chez Lola Lafont qui se perd aussi. Mmh. Ouais.
Dans Stalker de Tarkovsky, il y a des animaux. Dans les grands films, il y a des animaux. Parce que il me semble que les grands cinéastes savent que les animaux ont quelque chose à nous dire. Et que sans eux, on n'est plus humain. C'est-à-dire, si vous imaginez un monde où les animaux ne sont plus que dans des zoos, musées, ou bien dans notre assiette, il manque une part de l'humain, en fait. Il manque la présence d'autres yeux, d'une autre façon de respirer l'air, d'une autre gestuelle, d'une autre façon de marcher sur le sol, de nager dans la mer. Enfin, on va être amputé d'une grande partie de nous le jour où le dernier animal sauvage aura disparu. Et on ne sait pas encore de quelle partie. C'est-à-dire le dodo, le tigre de Tasmanie. Oui, on ne sait pas qui nous manque. Peut-être qu'on peut s'en ficher un peu. Mais quand ils seront très 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 nombreux à avoir disparu, les animaux sauvages, ce qui nous manquera, je crois qu'on ignore encore ce que c'est. Les petits des humains sont élevés avec et contre les animaux. Vous savez très bien, tous les livres pour enfants sont pleins d'ours, d'éléphants, de girafes. On les éduque avec et contre les animaux. Quand ils ne seront plus que dans les livres, que dans des images, que dans des films, on sera, vous savez, dans Soleil Vert, hein, le film là où quand on meurt, on a le droit de mourir dans un vidéodrome où on voit des images de la nature. Il nous manquera quelque chose et on ne sait pas quoi. Et en fait, le tigre de Tasmanie nous manque, mais on ne sait pas où exactement. On ne sait pas en quoi il nous manque, mais il nous manque.
Est-ce que ce n'est pas un livre qui dit ça, tout du long, notre vie dans les forêts, Marie Dariussecq, que quelque chose nous manque terriblement?
Oui. Bon, mais ça, je pense que absolument tous mes livres ne disent que ça, depuis le début, hein, dans Naissance des fantômes. Enfin, ça parle tout le temps de ça, dans tous mes livres. Oui, peut-être que la littérature a à voir avec ça, fondamentalement. Enfin,
avec ce quelque chose qui manque?
Il me semble. Mais c'est pas non plus exactement de la nostalgie. Je veux dire, c'était pas mieux avant. Je veux dire, avant, c'était terrible, en particulier pour les femmes, avant. Donc, je préfère vivre en 2017 qu'en 1967 ou en 1817, hein, enfin, vraiment. Mais quelque chose manque de... Mais qu'on ne sait pas nommer, c'est bien le propre du manque, justement. Mais ça nous fait humains aussi, c'est ça qui nous poursuit.
Ça n'est pas nommé, tout comme la catastrophe qui a eu lieu n'est jamais tellement nommée non plus dans votre livre. Il y a quelque chose comme ça qui manque aussi au récit, mais qui fait que c'est là le cœur incandescent du problème, en fait.
Mais c'est de là que ça s'écrit. Enfin, Madame Bovary, c'est pas l'amour qui lui manque, c'est autre chose. Je sais pas, moi, les frères Karamazov, tout leur manque, absolument tout. Don Quichotte, c'est l'histoire d'un manque infini. Bon, je pense qu'on peut voir toute la littérature comme ce manque-là, mais c'est ça qui fait que ça écrit et que ça nous parle. Donc,
Et que vous écrivez, par exemple, tout à l'heure, quand on réfléchissait à qu'est-ce que ce serait que l'éveil et pourquoi se réveiller, vous avez dit, oui, mais moi, je ne fais, entre guillemets, qu'écrire des romans. Moi, j'écris des romans. Mmh. Alors, écrire à partir de ce manque-là, c'est quand même faire quelque chose, c'est quand même mettre quelque chose dans le monde.
Ah oui, et puis je pense que c'est une grande chance, parce que si j'écrivais pas, je serais vraiment dans un aussi sale état et je serais aussi en morceaux que ma Viviane, Marie, quel est son nom au fond, justement, enfin... Donc,
D'ailleurs, il est question de ça, hein, de donner des noms aux animaux. Qui ouais. on est pour donner des noms ouais. aux animaux? Qui on est pour donner des noms presque mm-hmm. aux humains? Il y a quelque chose dans la lecture ou dans l'écriture qui rassemblerait, selon vous?
Ce qui manque, justement, n'a pas de nom. Et la littérature écrit page après page pour le nommer, probablement. Mais c'est ni triste, ni gai, c'est ni mal, ni bien. C'est comme ça. Enfin, c'est très exactement de l'art, en fait. Et c'est ça qui nous aide, je crois, quand même. Enfin...
Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez écrit ce livre-là, Marie Dariussec, dans une suspension, dans un moment d'arrêt de l'écriture d'un précédent mmh. roman. Est-ce que écrire ce livre-là a été une sorte de pièce manquante retrouvée pour poursuivre l'écriture du roman laissé à l'abandon?
Oui, très probablement. Ça, c'est mon atelier à moi, finalement. Mais je sens que ce livre... me redonne une forme de, pas d'assurance, mais de force, tout simplement. Ça me redonne de l'élan. C'est un livre qui est à la fois assez sombre, mais me semble-t-il qu'il y a une énergie terrible. Enfin, énergie qu'a notre époque. Notre époque a une énergie terrible. Notre époque est extrêmement excitante. Donc, nous vivons une époque tragique, mais... formidable aussi, formidable en termes de vers quoi elle nous projette, enfin vers en termes d'énergie quoi. J'ai des enfants et des ados à la maison, et ils n'ont pas si peur que ça, hein, heureusement. Enfin ils y vont, ils ont envie d'y aller. Et enfin je dis j'en sais pas plus qu'eux en fait.
Notre vie dans les forêts, c'est le titre de votre dernier roman. Il est paru aux éditions Peuel. Merci beaucoup d'avoir été là. Par les temps qui courent, faut-il parler moins vite ou parler moins?
Il faut respirer par le ventre.
Par les temps qui courent, que dire à nos moitiés dormantes?
Qu'on les aime.
Beaucoup?
Il faut beaucoup aimer les moitiés, oui,
j'allais le dire. Par les temps qui courent, de quoi avez-vous soif?
D'un Saint-Julien 2003.
Allez, vous. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec le metteur en scène Benjamin Lazare. Et en attendant, n'importe quand, n'importe où, sur franceculture.fr et Twitter.